ma grand-mère les appelait les bohémiens. Eh bien, bonjour. Nous sommes au mois de mai, dans une semaine, bien toute la Gitanie se retrouvera au Sainte-Marie de la Mer, et j'y serai moi aussi. Aujourd'hui, ça va être une émission, pas une émission interview, une émission, on va dire... je sais pas comment on va dire. En tout cas, les musiques seront comme d'habitude de Jean-Philippe Leclerc pour le générique de début et de fin. Et les autres musiques seront de Jörgy Löffler. Oui, je vous parlais des Sainte-Marie et pendant cette période, le 21 mai, très précisément, tous les ans, il y a une commémoration au mémorial du camp de Saliès. Alors, qu'est-ce que c'était le camp de Saliès? Eh bien, c'était un camp d'internement gitan pendant la dernière guerre, comme il y en a eu beaucoup en France, beaucoup plus que l'on ne sait. On n'est pas très au courant de ça. On parle des camps de concentration en Allemagne, mais on parle pas tellement des camps d'internement pour les gitans, les asociaux, enfin, ces gens-là, quoi, en France. Et pourtant, il y en avait 36. Et aussi curieux que ça puisse paraître, les derniers internés de ces camps n'ont été libérés qu'en 1946. Eh oui, 1946. C'est-à-dire un an après qu'ait été signé l'armistice. Ce qui veut dire que dans ces camps, qui étaient donc français, qui étaient donc gardés par des gendarmes ou des auxiliaires français, les tziganes, les gitans, les manouches, enfin, ont été pour la plupart internés jusqu'en 1946. De quel droit? Ça, on sait pas trop. Voilà. Alors, on va s'écouter une petite musique, et puis après, on s'écoutera un discours qui a été prononcé à ce mémorial de Saliès en 2009 par Esmeralda Romanez. Et puis, après, je vous expliquerai. Thank you.
chevaux se sont arrêtés au bout de mon chemin, épuisés, sanguignolants. Ils sont tombés sans bruit. Trois chevaux très vieux. C'étaient les plus vieux chevaux du monde. Au début de ce siècle, ils tiraient les roulottes de mes parents gitans morts dans les camps. Les chevaux ont continué le voyage. Oh, pas tous, pas beaucoup. Ceux qui ont pris le sentier des montagnes. Aujourd'hui, pour voir, ils sont redescendus. Personne n'était allé leur dire que la guerre était finie. Ils ont cherché une dernière roulotte pour mourir près d'elle. Ils n'en ont pas trouvé. Sous la lune, je leur ai conté une belle histoire de voyage, de route fraternelle. Ils se sont endormis. Maintenant, ils voyagent en moi, ces trois chevaux sanguignolants de mes parents morts dans les camps. Dans toute l'Europe occupée, on entreprit la traque du gibier tzigane, d'abord en 1939, ensuite en 1941, puis en 1943. L'extermination des 500 à 750 000 nomades eut essentiellement lieu dans les camps de Pologne. Les femmes étaient stérilisées de force, car on considérait qu'elles ne méritaient pas de se reproduire. En réalité, la persécution des Roms commença avant l'arrivée des nazis au pouvoir, avec les lois de contrôle de la plaie tzigane dès 1926. Deux ans plus tard, la surveillance devient spécifique et permanente. Puis vint, dès 1933, la stérilisation eugénique, l'interdiction des mariages mixtes en 1934-1935, et enfin, les premiers enfermements au camp de Dachau en 1936. C'est à l'automne 1939 que les déportations devinrent massives et c'est sur 250 enfants tziganes que les nazis testèrent le Zyklon B au camp de Buchenwald en février 1940. Par ailleurs, à Ravensbrück ont été pratiquées des opérations pseudo-scientifiques sur des cobayes humains, entre autres Tzigane. Cette politique-là, les nazis l'étendirent à l'ensemble de l'Europe occupée. Ensuite commença l'extermination à grande échelle. Si l'on en croit les nazis, la moitié de la population tzigane d'Europe fut supprimée. Tragédie supplémentaire, les tziganes ne furent même pas mentionnés durant le procès de Nuremberg. L'oubli total, alors qu'on ne cesse, à juste titre, de commémorer le martyr juif. Deux poids, deux mesures. C'est pourquoi j'ai fondé l'AMID, pour rappeler au monde cette énorme injustice et pour que toutes ces vies qui furent réduites en cendres ne soient jamais oubliées. Les tziganes furent des résistants acharnés. En effet, peuple libre et fier, nos anciens comprirent très vite le sort qui leur était réservé. Ils acceptèrent immédiatement de rejoindre la lutte clandestine contre les nazis. Malins, aguerris, ils useront de mille stratagèmes pour déjouer la vigilance des nazis, pour porter des messages ou transporter armes et explosifs. Ils sauvèrent de nombreux fugitifs. Vous leur devez beaucoup d'actions terroristes de résistance à l'ennemi hitlérien. En 1945, les nazis aux abois se livrèrent encore à de multiples massacres sur les derniers tziganes internés dans les camps allemands. Plusieurs pays européens gardèrent internés pendant plusieurs mois leur population tzigane. Quant aux résistants qui avaient survécu, ils ne bénéficièrent même pas à la fin de la guerre des promesses d'intégration sociale qui leur avaient été faites. Ils ne trouvèrent personne pour les défendre, personne pour évoquer la mémoire des disparus. Aucun d'entre eux ne réclama réparation pour tous les préjudices subis. Le peuple tzigane ne revendique jamais. Il subit en silence et en musique. Chez nous, de tout temps, l'instinct de survie et le goût pour les arts ont toujours raison des événements les plus dramatiques. Une joie inscrite dans les gènes pour transcender les moments les plus difficiles. Mais en France, quelle a été la politique française à l'égard des tziganes? Traditionnellement, les sédentaires se méfient des nomades. Dès 1906, les tziganes furent pesés, mesurés, photographiés, et c'est ainsi qu'en 1912, les populations errantes se voient attribuer un carnet anthropométrique visé dans chaque commune, à l'arrivée comme au départ. À cette époque, déjà, les tziganes, tout comme les juifs, sont victimes de persécutions et de discriminations. Le gouvernement de Vichy durcit cette politique. Dès l'automne 1940, des tziganes sont internés dans des camps de concentration, appelés pudiquement camps d'internement, à Argelès-sur-Mer et au Barcarès dans les Pyrénées-Orientales. Camps créés à l'origine afin d'accueillir les réfugiés espagnols et les juifs. Même logique d'exclusion pour des populations pourtant si différentes. Ce sont près de 3000 tziganes qui ont été internés dans l'ensemble de la France entre 1940 et 1946, date de leur libération sur le sol français. Ce camp que nous commémorons aujourd'hui, ce camp de Salier, fut le seul camp d'internement exclusivement tzigane. Il est situé en zone libre sur la commune d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône. Il s'est d'abord inscrit dans une logique de sédentarisation, puis d'enfermement. Au début, 300 nomades doivent s'entasser dans des petites cabanes camarguaises destinées à l'origine pour un homme et son cheval. Ces cabanes sont inachevées, sans électricité. Ce sont les tziganes eux-mêmes qui furent obligés de les construire. Les conditions d'hébergement et de ravitaillement sont lamentables. Le sort des enfants est particulièrement difficile. Ce camp n'a pas d'école. Ils ne sont donc évidemment pas scolarisés. Sans aucun vêtement de rechange, les 300 internés portent très rapidement des loques, isolés sur cette plaine battue par le Mistral l'hiver et sous l'invasion des hordes de moustiques et autres parasites de l'été. Ils sont squelettiques, mais ils résistent. Les enfants tombent malades, meurent ou sont arrachés des bras de leur mère pour être placés dans des institutions. Plusieurs d'entre eux furent adoptés alors que leurs parents ne les avaient pas abandonnés et qu'ils étaient vivants. Pourtant, aujourd'hui encore, la légende tenace de voleurs d'enfants nous colle à la peau. Ceux qui ont survécu à l'enfer gardent en mémoire le camp, bien que le site ne garde aucune trace de son passé qui a été gommé de l'histoire à la fin du tournage du film de Clouzot, Le salaire de la peur. Sur la demande du sous-préfet d'Arles, le camp fut fermé en juillet 1944, alors qu'il n'y avait plus de tziganes. Il s'était évadé pendant le bombardement américain du camp, confondu par les Alliés avec un camp d'entraînement ennemi. Dans les camps de concentration allemands, les tziganes ont été littéralement massacrés. 20 000 pour la seule nuit du 31 juillet 1944 à Auschwitz. Le 1er août, un officier SS écrit, après l'envoi des tziganes à la chambre à gaz, « Mission terminée, traitement spécial exécuté. L'extermination juste parce qu'ils sont nés tziganes. » Comme les juifs, les tziganes ont été victimes de l'idéologie nazie, politique de la race afin de régénérer le sang allemand et politique de l'espace pour la création d'une grande Allemagne débarrassée des éléments impurs, étrangers, inférieurs. L'élimination des tziganes aura été d'autant mieux acceptée que la mise à l'index était ancienne. Si peu de mémoire de lieu, pas de mémoire administrative, pas de mémoire législative. Rares sont les voix qui s'élèvent pour défendre la cause des tziganes, discriminés, persécutés, spoliés, exterminés. Jusqu'à mon dernier souffle, je me battrai pour qu'enfin le gouvernement français reconnaisse son implication directe dans l'internement et la déportation de nos anciens, pour que ces cartes d'internés politiques qu'on ne leur a remis que fort tardivement soient remplacées par celles de l'histoire enfin reconnue. Nous parlons d'hier, mais aujourd'hui. Sachez que l'Union européenne a validé la création des fichiers génétiques ROM avec prise d'empreintes et ADN des enfants mineurs en Italie. Des policiers tchèques ont filmé avec leur téléphone portable des enfants ROM qu'ils avaient arrêtés, les obligeant à se frapper violemment et les obligeant à se mettre nus, les tenant sous le joug de chiens policiers. En Île-de-France, plusieurs villages d'insertion ont fleuri. On y place quelques familles de Roms migrants dans des mobilhomes et on dresse des palissades de plaques métalliques qui empêche le regard de l'intérieur vers l'extérieur et vice-versa. Ces camps sont surveillés par des hommes accompagnés de chiens tenus en laisse. Un grand-père ne peut pas recevoir son petit-fils venu lui rendre visite. C'est sur le trottoir qu'ils peuvent se rencontrer et parler toujours avec la présence dissuasive des chiens tenus en laisse. Nos associations ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur de ces camps. Donc, nous voilà face à une assignation à résidence pour 3 ans, sans savoir ce qu'il adviendra de ces familles après ce délai. Face à de tels faits, nous, enfants d'internés, aux côtés de nos survivants, craignons l'absence de mémoire et la répétition de l'histoire. Des Roms ont été expulsés du camp de Drancy quelques jours avant la célébration de la journée de la déportation, car leur présence risquait de gêner la cérémonie selon les autorités du lieu. Quel choix nous reste-t-il en 2009 entre la traque... Quel choix nous reste-t-il en 2009 entre la traque, la chasse aux Roms, ou l'enfermement en terrain d'accueil, en centre de rétention, en village d'insertion? Est-ce cela l'intégration dont on nous rabâche les oreilles? Bien que cette phrase ne nous appartienne pas, nous la citons avec ferveur. Vous n'aurez jamais notre liberté de penser. Et je rajouterai de vivre non pas libre, mais en liberté.
La chance d'avoir l'autorisation d'utiliser un témoignage de quelqu'un qui a été interné dans ces camps. Grâce à Esmeralda Romanez, qui m'a donné la permission d'utiliser le témoignage de sa bibi. Alors, pour les non-gitans, bibi, c'est la tante. Sa tante Esmé a été internée pendant la dernière guerre et Esmé a voulu la faire témoigner. C'est un enregistrement qui a déjà été diffusé sur Radio Larzac puisque il y a 2 ans maintenant, Esmé est venue faire une conférence sur Millau Et ce témoignage avait été utilisé, mais je crois qu'il n'est pas inutile, loin de là, de le rediffuser, parce que cette Bibi, non seulement témoigne de ce qu'a été les internements pour le peuple gitan pendant la dernière guerre, mais elle fait passer un certain nombre de choses qui nous montrent ce qu'est ce peuple. Voilà, écoutez bien.
Oui, je vais témoigner. Je vais témoigner parce que tu as trouvé les mots justes. Parce qu'effectivement, il faut que ce soit nous qui donnions la parole. Dès quand nous ont libérés des camps et qu'ils nous ont dit « retournez chez vous », ben c'était où chez nous? On n'avait plus de roulotte, on n'avait plus de chevaux. Nos enfants, enfin pour moi, étaient morts. Deux. J'ai perdu deux enfants dans les camps d'internement parce que je n'avais plus de lait, parce que je ne pouvais plus les nourrir. Et ils sont morts. Je n'avais rien à leur donner à manger. Je n'avais rien pour les couvrir, les protéger du froid, de la vermine qui nous mangeait. Ah, ma fille, pourquoi tu me fais remonter tout ça à la surface? Pourquoi? Pourquoi tu me fais rappeler ces longues files interminables, ces attentes, dans le froid ou sous le soleil? Ces gestes brusques qu'ils avaient pour nous faire monter dans les wagons quand ils nous transféraient de camp. Les pleurs des enfants, les cris des femmes. Et on s'appelait pour être sûr d'être toujours ensemble. Et je peux pas te décrire, il n'y a pas de mots pour décrire des scènes comme celles qu'on a vécues. C'est pas possible. Alors oui, je témoigne, mais tu vois, j'aurais pas du tout le souvenir des noms des camps. J'ai le souvenir des lieux, de comment c'était, de comment ça fonctionnait, de qui dirigeait, de qui nous maltraitait. J'ai tellement cette mémoire vive en moi que si un jour je croise dans la rue un de ces visages, je dis c'est lui, il nous a fait ça, lui, il faisait telle chose à telle époque. Des camps, je m'en fous. Le nom des camps, je m'en fous. Ils étaient tous pareils. C'était partout la même chose. L'humiliation, la maltraitance. Témoignez, ma fille. Témoignez pour vous dire. On nous a privés de notre liberté. Et ça a été ça, notre plus grande souffrance. Privés de notre liberté parce qu'on était nés gitans. J'ai été enfermée parce que je portais une jupe longue, parce que j'étais mal de peau, parce que je n'avais pas de maison. J'ai été enfermée par les gendarmes. J'ai été enfermée et gardée par les gendarmes français. Qu'on me raconte pas à moi que c'était les Allemands qui nous internaient. On ne me raconte pas à moi qu'ici, sur ce sol français, c'était les Allemands qui nous faisaient la misère. Je ne sais pas s'ils étaient derrière les Français. Je ne sais pas. Mais moi, je dis, pour l'avoir vécu, ce sont les gendarmes français qui nous ont arrêtés. Ce sont les gendarmes français qui nous ont internés. Et ce sont, dans certains camps, les gendarmes français qui nous gardaient. Dans d'autres, c'était d'autres personnes, mais tous français. Nous n'avons pas côtoyé dans les camps d'internement les Allemands. C'est dur, ma fille, de me faire remonter tout ça à la surface. C'est dur de te dire que derrière nos barbelés, quelquefois, il y a des gens qui étaient libres et qui venaient nous regarder comme on regarde les bêtes dans un zoo. Ils venaient sous notre nez manger. Nous qu'avions si faim. Ils étaient en hiver si bien couverts, ces gens-là. Nous qu'avions si froid et rien à nous mettre. Oui, tu peux pas t'imaginer. On a été privés de liberté sans savoir pourquoi. On a été maltraités sans savoir pourquoi. On nous réunissait aussi à l'appel sous le drapeau français. Oui, ma fille, nous devions chaque matin répondre présent sous le drapeau français. Chaque matin sous le drapeau français, nous devions nous mettre au garde à vous. Merci la France de nous avoir internés et en plus je te rends les honneurs. Voilà. Comprends-tu cette chose? Moi je ne peux pas la comprendre, c'est pour ça que j'ai enfoui tout ça dans ma mémoire. Et puis je me souviens que très très loin après cette fameuse période, on m'a remis une carte. Une carte. Et comme moi je ne sais pas lire, bon, j'ai pris la carte et je l'ai mis au fond d'un petit sac qui me sert à ranger mes papiers. Et puis, un jour, j'ai montré cette carte, que je savais même pas ce que c'était, à une petite sœur. Et la petite sœur m'a dit, oui Marie, c'est une carte d'interné politique pour justifier que tu as été interné en France. Qu'est-ce que ça veut dire, dis-moi, une carte d'interné politique? Je lui ai dit ça. Et elle m'a répondu, mais ça veut dire qu'on t'avait enfermé, interné, parce que tu étais en opposition au pouvoir mis en place de l'époque. Alors j'ai pris la carte des mains de la petite sœur. Je l'ai déchirée en quatre. Je l'ai posée dans le cendrier. Et puis, j'y ai mis le feu. Parce que ça, c'est un mensonge. J'ai pas été interné pour cette raison-là. On m'a pas pris ma roulotte, mon or, mes chevaux, pour cette raison-là. On m'a pris ma roulotte, mon or, mes chevaux, parce que je suis né gitane. Et tu sais très bien que les gitans ne font pas de politique. Voilà. Voilà les mensonges qu'ils véhiculent. Ils nous ont enfermés parce que soi-disant on était des dangers pour le gouvernement de l'époque. Alors qu'en fait, c'est le gouvernement de l'époque qui était un danger pour nous. Les camps d'internement, ma fille, c'est l'horreur. On t'insulte, on te frappe, on t'affame, on te donne pas à manger. Tu n'as pas droit aux soins. Si tu es malade, tu meurs. Tu sais, quand mes enfants sont morts, morts de faim, eh bien, je n'avais plus de larmes pour les pleurer. Je n'avais plus de larmes. J'étais, je peux pas t'expliquer, presque contente qu'ils se soient endormis et qu'ils ne souffrent plus. C'était presque une délivrance. Ouais. Oh. Je les pleure encore, mes enfants. Je les pleure encore aujourd'hui. Mais sur le moment. Eh bien non, je ne pouvais pas. Je n'avais plus de larmes. Je n'avais plus de larmes. Alors tu vas me dire, mais pourquoi vous ne nous avez pas raconté tout ça? Et pourquoi, ma fille? Parce que nous, il fallait déjà qu'on vive avec quelque chose qu'on avait subi et pas compris. Et puis, il fallait qu'on commence à vivre, non plus qu'on survive. Il fallait pas, surtout pas, qu'on vous inculque la haine des non-gitans. Qu'on vous élève dans la méfiance, oui, mais dans la haine, non, non. Et on a bien fait, ma fille, et on ne regrette pas. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux de ta génération et des générations d'après ne sont pas responsables des fautes de leurs parents. Moi, quand je rencontre des gens de ma génération qui ont vécu. Je préfère me dire, ils sont comme moi, ils ont souffert, plutôt que de me dire, aïe, ceux-là ont participé à rendre les autres très malheureux. Non, même ça, je ne peux pas le faire. Même ça, c'est tellement inhumain ce qu'on nous a fait, que je ne peux pas imaginer croiser des gens responsables de ça. Je préfère croire qu'ils sont tous morts et que maintenant, ils s'arrangent avec leur conscience. C'était quoi les camps d'internement en France? C'était terrible. C'était la misère. C'était... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour te dire. Et je ne veux pas te dire, il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Parce que je l'ai vécu. Mais je ne l'ai toujours pas compris. J'ai toujours pas compris pourquoi on nous a fait tout ça. Je crois même que je comprendrai jamais. Tu entends ce train derrière. Si tu savais que de souvenirs il me rappelle. Il me rappelle des souvenirs, ce train. Il me rappelle tous les cris et les pleurs des enfants, le cri des mamans. On partait d'un camp à un autre. Ils aimaient beaucoup nous déplacer. On ne devait pas prendre nos repères. C'était encore plus humiliant que de nous séparer, éclater les familles et nous emmener ailleurs. Ils devaient avoir peur. On sympathise avec nos gardiens. Ils devaient avoir peur. On soit très organisé pour finir par se révolter contre eux. Ils n'avaient même pas compris qu'en nous privant de liberté, ils nous avaient déjà tués, qu'on n'avait plus la force de se révolter. On était trop affamés. On avait trop le souci des enfants qu'on ne pouvait pas nourrir pour avoir encore une étincelle de révolte. On ne se révolte pas chez le gitan. On gueule. On a des coups de gueule, comme on a des coups de cœur, mais on ne se révolte pas. Alors évidemment, ma fille, toi qui bouges toute cette mémoire, et qui as sans doute raison, ça nous fait beaucoup de mal. Mais si à travers ce mal qu'on ressent, de se rappeler tout ça, on peut enseigner la jeunesse, ça vaut le coup. Moi, je veux dire aux jeunes, vous êtes nés gitans, vous êtes gitans. N'ayez jamais honte de vos origines, ne cachez jamais vos origines. Vous êtes gitans, vous mourrez gitans. Et vos vieux ont souffert pour être ce que vous êtes aujourd'hui, pour vous donner la vie et pour vous dire, vivez debout, dans le respect de la parole de vos pères, dans le respect de la parole de vos anciens. Ne soyez jamais plus méchants qu'ils n'ont été. Ne faites pas porter le tort de ces années sombres à des gens qui n'en sont pas responsables. Méfiez-vous de l'autre. Oui, oui, méfiez-vous de l'autre. Pourquoi ? Non pas parce qu'il n'est pas gitan, mais simplement parce qu'il n'a pas votre éducation, qu'il ne réagit pas comme vous, qu'il ne pense pas comme vous, parce qu'il n'a pas les mêmes valeurs. Vous avez trois valeurs, vous, la jeunesse gitane, la famille, le respect et l'honneur. Eux ont trois autres valeurs, liberté, fraternité, égalité. Ils sont beaux, leurs trois valeurs. Elles sont belles, pardon, leurs trois valeurs. Mais elles n'est jamais appliquées. Tandis que les nôtres, famille, nous vivons toujours en famille. Honneur, c'est important de garder son honneur. et de ne pas faire perdre l'honneur de sa famille. Quant au respect, c'est se sentir droit dans ses bottes, droit dans sa vie. C'est ne jamais oublier pourquoi on a été mis sur terre. Respectez-vous, et obligatoirement, vous respecterez tout ce qui vous entoure. Ça, ce sont trois codes applicables. Maintenant, si vous pouvez appliquer les leurs, fraternité, faites-le. Parce que vous avez déjà les trois codes qui vous amènent à cela. Égalité. Ne vous leurrez pas. Il n'y aura jamais d'égalité pour le monde entier. Pour tous les êtres humains. Donc n'y croyez pas. Et même, n'employez jamais ce mot-là. Ce mot est mensonge. Et liberté. N'en parlez pas. Puisque vous êtes né pour vivre libre. Non pas vivre libre, mais pour vivre en liberté. Ce n'est pas pareil. Vivre libre, c'est se foutre de tout. Et vous n'êtes pas mis sur terre pour vous foutre de tout. Vous êtes mis sur terre pour vivre en liberté. C'est-à-dire, sans contrainte, sans vouloir accéder à cette société pyramidale qui fait que vous allez marcher sur la tête de votre frère, puis sur celle de votre père, puis sur celle de vos cousins, de vos oncles, pour accéder à un pouvoir quelconque. Et vous allez devenir non plus des êtres humains, mais des bourreaux pour les autres. Donc, respectez toujours nos trois codes, qui vous amènera au code des non-gitans. Mais à un seul de leurs codes, celui de la fraternité. Car le mot fraternité veut dire frère, et vous vous devez de frérer avec tout le monde. N'oubliez jamais que vous plantez votre regard dans celui qui vous fait face. Et là, vous verrez si son regard est franc, si son regard n'est pas fuyant, vous pouvez l'appeler frère. Autrement, tournez-lui le dos. Cela ne justifie pas de rentrer en guerre avec quelqu'un. Partez, partez ailleurs. C'est cela, vivre en liberté. C'est ne pas se sentir obligé de... On n'est obligé que d'une chose, mais ça le retrouve dans nos codes à nous. On n'est obligé que d'une chose, se respecter et respecter les autres. Voilà. Mais on n'est pas obligé de frérer avec ceux qui ne le méritent pas. Parce que ceux qui ne le méritent pas, un jour, vous enfermeront, feront mourir vos enfants, vous feront mourir de faim. Vous refuseront les soins si vous êtes malade. Vous refuseront les vêtements, comme ça nous est arrivé à nous. Et vous feront vivre, comme ils nous l'ont fait à nous, une vie qui n'est même pas digne de celle d'un chien. Car ces gens-là, ces mêmes gens qui nous ont enfermés, maltraités, affamés, était capable de ramasser un chien dans la rue et de le plaindre. Alors que nous, il nous faisait subir l'enfer. Oui, j'ai beaucoup de choses à dire sur ces camps. Mais j'ai bientôt 87 ans. Et je n'ai pas envie de dire du mal de l'autre. On a vécu des choses abominables. Il ne faut peut-être pas remuer trop. Il faut simplement dire oui, ça existait, oui, c'est vrai, ce n'est pas des mensonges, ce n'est pas un film, ce n'est pas une histoire. C'est la réalité de la vie. Il faut simplement vous dire attention. Attention à ce que vous faites. Protégez les vôtres. Cela peut arriver à tout moment. Il y a plein de choses. Plein actuellement, plein de signaux d'alarme qui disent attention, attention, le racisme est là. Le racisme, il n'est même pas endormi, il est là, il est éveillé. Et il ne faut que très peu de choses pour qu'il reprenne cette ampleur. Donc soyez vigilants, ne cherchez pas à provoquer l'autre. Préférez vivre en liberté, c'est-à-dire partir ailleurs. Plutôt que d'essayer de vous confronter à cette méchanceté humaine qui, croyez-moi, est d'une barbarie rare. Quelque chose que vous n'imaginez pas. Quelque chose qu'il est inhumain d'imaginer. le racisme est inhumain. Ne devenez jamais raciste. Jamais. Je veux que cette jeunesse tzigane soit fière de sa naissance, fière de ses origines, et que vos enfants plus tard puissent être fiers de vous. C'est cela même la survie d'un peuple. C'est la fierté que l'on peut garder de nos anciens. Je suis fier de mes parents qui sont morts. Pour mon père, mort ailleurs, en Pologne. Pour moi, je suis toujours vivante et j'ai toujours mon père dans mon cœur. Je suis toujours vivante et j'ai toujours ma mère dans mon cœur. Et mon père avait son père dans son cœur et ma mère avait sa mère dans son cœur. Il faut que vous puissiez toujours avoir vos pères et mères dans vos cœurs, toujours être fiers d'eux. Et il faut surtout que vos enfants puissent être fiers de vous, parce que s'ils sont fiers de vous, ils seront fiers de leurs grands-parents, de leurs arrière-grands-parents et de toutes les générations d'avant. C'est-à-dire fiers d'appartenir à ce peuple que l'on maltraite, parce qu'il a des valeurs sûres, que la modernité ne comprend plus, que la modernité rejette. Et que la modernité, c'est une arme qui détruit, qui va droit dans le mur, et les non-gitans ne sont pas assez sages pour le comprendre. Vous devez être sage. Vous avez cette instruction-là. Ne faites jamais aux autres ce que les autres nous ont fait. Jamais. Parce que vous ne seriez plus gitans. Vous ne seriez plus des gitans. Si vous enfermiez des gens, vous ne seriez plus gitans. Si vous affamiez des gens, vous ne seriez plus gitans. Si vous faisiez mourir des gens au nom d'une race, au nom de quelque chose dont ils ne sont pas responsables, soyez toujours fiers de votre naissance. Soyez toujours des gens qui vivent en paix. Et moquez-vous de toutes ces légendes qui font de nous des voleurs de poules, des voleurs d'enfants. Ce ne sont que des histoires, ce ne sont que des prétextes. Nous avons élevé nos chèvres, nous avons élevé nos poules. Les chèvres marchaient derrière les roulottes. Les poules se promenaient sur la route, se perchaient sur les mangeoires, se perchaient là où on rangeait le foin, les râteliers où on rangeait le foin pour les chevaux, à l'arrière de la roulotte. Et comme les gradiers voyaient qu'on avait des chèvres et des poules, ben c'est obligé, on les volait. On n'est pas des gens qui pouvions posséder quelque chose, ma bonne mère, vous pensez bien. Parce que vivre en roulotte, c'était vivre la misère. Ben non, vivre en roulotte, c'était vivre en liberté. C'était vivre d'une richesse de cœur et d'âme que les non-gitans ne peuvent pas comprendre. Et maintenant qu'ils le comprennent, eux deviennent des gitans le week-end ou un mois de vacances. Ils prennent leur caravane. Mais comme la liberté de penser, comme vivre en liberté n'est pas dans leurs habitudes, ils préfèrent s'enfermer dans des terrains de camping et reproduire sur leurs terrains de camping ce qu'ils ont dans leur maison. Voilà. Mais c'est déjà une avancée de se dire que ces gens-là peuvent nous envier, on arrive au point de nous copier. Ils veulent nous mettre en maison et eux prendront le voyage. Si c'est comme ça que le monde doit tourner, allons en maison. Laissez qu'on les laisse voyager, ces gens-là. Mais si on entre en maison pendant qu'eux prennent le voyage, entrons en maison en famille, toujours. Ne nous laissons pas nous séparer, ne les laissons pas nous détruire. C'est la seule chose, le seul message que je peux vous dire, car l'enfermement, l'internement qu'on a subi, ouais, il y a des gens qui disent jamais plus ça, mais c'est une phrase qui veut rien dire, jamais plus ça. Il continue sans arrêt. On peut pas parler du passé, de ce qu'on a vécu, sans le ramener à aujourd'hui, à ce qui se passe. Moi, ma fille, quand je suis dans la rue et que je vois des gens sans logement, qui n'ont même pas une roulotte. Je me dis, mais c'est ça, cette société dans laquelle on veut absolument nous insérer. Mais je la refuse. Moi, si j'ai quelqu'un, quand je passe à table à côté de moi qui n'a pas mangé, je lui dis, viens, mange. Et si j'ai qu'un morceau de pain, on le partage en deux. Eux, non. Les gens dorment dans la rue. Des enfants qui dorment dans la rue. Mais c'est une horreur, cette société de modernité. Ce n'est pas la nôtre. Nous restons soudés. Et même s'ils nous enferment, restons en famille et soudés, mourons ensemble. Mais jamais, jamais rejetons les autres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans notre éducation. Ce n'est pas dans notre façon de vivre. On ne doit jamais arriver à faire comme eux. Vous êtes né gitan, vous êtes gitan, vous mourrez gitan, mais vous vous comporterez toute votre vie en gitan. Vivons ensemble. Et ne nous occupons pas des méchancetés des autres. Ça ne peut que nous détruire. Si les camps d'internement ne nous ont pas détruits, si les camps de la mort ne nous ont pas détruits, si nous sommes toujours là aujourd'hui, c'est la preuve que nous avons raison, que notre éducation est bonne. Et que vous ne devez jamais en avoir honte. Reniez jamais vos origines. Et si cela attise la haine des autres, partez ailleurs. Et si là encore vous trouvez, partez ailleurs. C'est cela le nomadisme. C'est pour cela que nous sommes nomades. C'est parce que nous ne voulons ni prendre la fortune des autres, ni chasser les autres d'un territoire pour s'y installer à leur place. Nous sommes des gens simples qui ont été mis sur terre comme tout un chacun, tous. On a été mis sur terre de la même manière, mais nous on n'a pas oublié le pourquoi, les autres aussi. On nous a enfermés à cause de ça. On nous a internés à cause de ça. On nous a fait vivre les pires misères à cause de ça. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de continuer. Ça vaut le coup de se dire, on ne sera jamais comme eux. Restez gitans. Et si on doit vous enfermer, on vous enfermera. Mais continuez. Même dans l'enfermement et dans l'internement et dans les tortures, d'enseigner à vos enfants la droiture. Pour ne jamais, au grand jamais, risquer qu'un jour, ils aient honte de vous. J'ai plus rien à vous dire. Ma fille, je te rends la parole. Mon témoignage n'était pas celui que tu attendais. Mon témoignage était, tu attendais que je te dise, ils nous ont fait subir des atrocités. Oui, c'est vrai. Ils nous ont fait. Mais je ne peux pas faire autrement, puisque c'est pour enseigner, comme tu dis, notre jeunesse, que de leur passer un message. Voilà. Je ne sais pas si ce que je te dis, c'est ce que tu attendais. Mais tu sais, maintenant, il me faut réenfouir au fond de moi-même toutes ces mauvaises images que tu m'as fait remonter. Maintenant, il me faut réenfouir au fond de moi-même pour vivre en paix avec moi-même et avec les autres. Tous ces souvenirs terribles. Une seule chose, sache que si j'ai pu oublier mes souffrances, si j'ai pu oublier tout ce que j'ai subi, je n'ai jamais oublié mes enfants qui sont morts dans les camps. Et c'est aussi pour eux que j'accepte de témoigner aujourd'hui, pour qu'ils ne soient pas morts pour rien, pour que les gens sachent qu'ils ont été odieux, qu'ils nous ont tout pris, jusqu'à nos propres enfants. Et peut-être que cela fera réfléchir les autres. Je suis désolé de ne pas aller peut-être dans le sens que tu espérais. Je sais que mon témoignage n'aura aucune importance pour les historiens, mais c'est ainsi. Je n'ai pas d'autre chose à te dire. Peux-tu maintenant me laisser tranquille, ma fille?
Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais dire un grand merci à Stéphane qui toutouillait les boutons pendant que je parlais. Un grand merci à Nico qui va monter cette émission. Et à vous, je vais dire, comme d'habitude, l'Achodrome. Et puis, comme d'habitude, c'est vraiment devenu une habitude, sur le générique de fin, je vais vous lire un poème. Un poème de Félix Monget. un poème qui est introduit comme ça, puisque je l'ai choisi spécialement, puisque la semaine prochaine, c'est les Saintes Maries. La petite dédicace que Félix met en haut de son poème dit « Lachodrom Mori », ce qui signifie « bonne route, frère ». À mes frères les gens du voyage, pour leur pèlerinage à Sarah. Entends, entends, ils arrivent. Entends les violons et les guitares qui s'accordent au chemin. De toutes les tziganies s'ébranle de baroques fanfares qui donnent au vent les étranges sonorités de leur musique. Quinca, sur les bosses de la route, elles glapissent de joie. Pour ce voyage, les yeux sont redevenus rieurs. Du creux des vallons, on les devine. Dans leur progression, elles soufflent un enchantement sur les campagnes. Réapparues d'une année de profond sommeil, des gorges se raclent et se refont la voix. Coulera le beau vin de pendant longtemps, aussi longtemps qu'il restera quelque chose à chanter. En ce nouveau printemps, flotte dans l'air le bonheur d'être vivant, d'aller d'un bout à l'autre de la course du soleil. Entends, ils arrivent, entends leur clameur comme un fleuve pour inonder tes rues.